les entretiens cadres de ville sur Radio Immo et Radio Territoria.
De retour sur l'antenne de Radio Immo dans les entretiens du cadre de ville, nous sommes à la CCI de Paris et j'ai le plaisir de recevoir François Leclerc. Bonjour François.
Bonjour.
Vous êtes architecte urbaniste et vous êtes intervenu tout à l'heure dans un focus sur la ville héritée déjà là, quelle valorisation des entrées de ville. Alors l'entrée de ville, alors, ça va pas être le sujet de notre entretien, mais on va plutôt parler de cette opportunité de développement dans la ville. Quel est-il ?
On est dans un contexte général assez compliqué actuellement, c'est-à-dire, j'appellerais ça en recherche foncière désespérément,
oui.
Ou bien la théorie de la pénurie organisée. C'est-à-dire qu'on est dans une contradiction très très forte, et c'est ce que l'on ressent aujourd'hui partout là où on travaille. C'est-à-dire la ville intensive, elle est largement contestée par la population, relayée par les élus, une sorte de malthusianisme municipal qui est aidé par la suppression de la taxe d'habitation, qui ne pousse pas à construire de la part des maires. J'ai plein d'exemples par rapport à ça, où les mètres carrés sont divisés par deux, par trois, sur ouais. certains secteurs. Et il y a des raisons objectives par rapport à ça, c'est le desserrement climatique, c'est-à-dire les villes sont en surchauffe, on a une structure en France de villes très dense parce
oui,
que le travail se trouve en ville, donc on a ce sentiment d'entassement,
ouais.
et en plus de ça, ces villes entassées disposent relativement peu d'espaces verts, et donc sont des îlots de chaleur qui, dans ces considérations actuelles, sont très, très mal vécues.
Les villes ne sont pas assez aérées.
Donc il faut retrouver du sol en ville, hein. Il faut retrouver du sol, planter, etc. Donc ça c'est ses nécessités. Ensuite, la ville extensive, elle est plus ou moins interdite, on va dire, elle n'est pas recommandée. Donc c'est l'histoire du ZAN qui est recommandation européenne. Et ça va sans doute venir une variable d'ajustement de l'aménagement du territoire, mais ça veut dire qu'il y a déjà une demande par rapport à la réindustrialisation. Mythe ou réalité pour savoir où est-ce qu'on peut installer cette ouais. industrie.
Le Premier ministre en a parlé dans son discours de politique générale.
Il en a parlé, mais tout le monde en a parlé, tout le monde souhaite ouais. qu'on quitte nos 10% d'industrie et qu'on monte un peu sur ce chiffre. Donc il y a une équation presque impossible entre la densité contestée et l'extension pas très facile. Donc, en plus de ça, il y a un contexte social, économique assez compliqué. Il y a une crise du logement qui est très forte.
Ouais.
Il y a une crise du logement comme on a rarement vécu. Le logement, finalement, c'est le vecteur essentiel de toutes les transformations. Que ce soit la ville périphérique, la ville centrale, etc.
C'est un moteur.
C'est presque le seul moteur parce que les autres demandes sont très faibles. Que ce soit les bureaux, etc. C'est plutôt... Et donc, le logement est le vecteur. Et donc, on est actuellement à 273 000 chantiers par an,
ouais.
mis en chantier comme ça.
Alors qu'il en faudrait 500 000.
On était en 2018 à 430.
Ouais.
Et en moyenne, on est plutôt à 350.
Mais 350. On évalue à 500 000 le besoin de nouveaux logements.
On a besoin de 500 000 parce qu'il y a ces 430 qui sont presque habituels, ou 150, mais il y a le rattrapage.
Ouais.
Et en plus de ça, il y a la taille des ménages. Enfin, ça, c'est par rapport à la demande. La taille des ménages qui a totalement changé. On est passé en quelques décennies de ménages à 3 à ménages à 2.
Oui.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une demande très différente, ça veut dire qu'il faut réinventer le logement par rapport à cet accueil de la vie à mi-temps, garde partagée, etc. Donc des logements, des petites typologies, mais qui offrent beaucoup de possibilités. Donc là, c'est un sujet, j'allais dire, de logement par rapport à ce que j'ai largement étudié précédemment dans un référentiel. Donc c'est une chose très importante, mais qui va évoluer, parce qu'on imagine un pic démographique en 45, donc savoir ce que ça doit devenir tout ça. Et en plus, ça, le vieillissement de la population. Donc, le logement devient le vecteur essentiel de la transformation. Je vous dis ça parce que il faut réfléchir à cette notion de gisement. Et les zones commerciales sont dans le gisement. Les autres gisements, c'est des choses qui sont infinitésimales, comme les surélévations. Les villes peuvent surélever un étage ou deux quelque part, mais ça correspond à très peu en quantité. Il y a la transformation bureau-logement. C'est-à-dire, on parle de 20% de logements libres dans la région parisienne, alors qu'il y a 56 millions de mètres carrés. Donc ça correspond, avec un chiffrage un peu rapide, à entre 100 et 120 000 logements potentiels. Mais c'est très lent et très cher. Et on n'a pas trouvé la bonne équation économique pour le faire. Donc c'est très vertueux, parce que ça existe, c'est très bien, mais c'est plutôt coûteux. Ensuite, il y a l'histoire du Airbnb. C'est vrai que dans le Marais, il y a plus de la moitié des logements qui sont parfois habités par du Airbnb. C'est un peu dingue.
Même dans d'autres villes que Paris, hein, effectivement.
Il y a d'autres villes que Paris, mais à New York, par exemple, ils ont pris des mesures drastiques en disant Airbnb, c'est pas moins d'un mois. Donc, ça veut dire qu'il y a une vie de quartier qui se réinstalle. Enfin, voilà. Ensuite, il y a d'autres gisements qui sont le pavillonnaire. En Île-de-France, c'est 75% de la surface bâtie dévolue au logement, mais que 25% des habitants. Donc ça veut dire que c'est pas raser les pavillonnaires, mais comment un pavillon peut devenir 2 logements ou 3 logements. Donc il y a plein de choses, plein d'études qui sont faites actuellement là-dessus, qui sont très intéressantes. Il y a aussi la sous-occupation. C'est-à-dire, on a déjà beaucoup, beaucoup de mètres carrés en France par rapport à la population, mais ça va être pas loin de 70% des logements qui sont sous-occupés. On ne va pas obliger les gens à déménager ou à accueillir des gens chez eux, etc. Mais le logement social a certainement beaucoup de boulot à faire là-dessus pour dire on va faciliter les déménagements de personnes âgées qui restent dans leurs 5 pièces alors qu'elles rêvent d'être dans un 2 pièces. Ouais. Donc il y a ça. Alors, le gisement qui est le plus évident, ou qui est assez évident, c'est les zones commerciales là-dedans qui font partie de ce référentiel des gisements. Ouais. Donc avec pas loin de 500 km² comme potentiel. Et puis il y a un alignement de planètes, parce qu'on est dans un système où en même temps il y a une demande de foncier et la réinvention d'un modèle. C'est-à-dire tous les commerçants, grosso modo, les grands opérateurs, se posent des questions de leur avenir, mais surtout de réinventer quelque chose qui soit attractif. Alors en plus de ça, j'ai vu une statistique comme ça. Les hyper, la moyenne d'âge, c'est 47 ans. Les drives, c'est 37 ans. Et les drives piétons, c'est 27 ans. Donc on voit que des habitudes changent. Donc il faut inventer vraiment autre chose, que ce soit en ville, en périphérie, en centre-ville, avec un modèle qui se libère un peu de la voiture, plus le e-commerce, etc. Donc ça pose la question de la transformation de toutes ces zones commerciales. Et il y a des tas de paramètres pour le changer. Alors les paramètres, c'est déjà la situation économique des grands territoires sur lesquels on s'installe. Il y a des zones, je connais des villes, qui sont en décroissance démographique et décroissance économique. Donc il y a 2 fois trop de commerce. Mais en même temps, il n'y a pas de potentiel de demande de logement. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces zones qui vont rester un peu à l'abandon ? Donc ça pose le problème même de la renaturation. Est-ce qu'on peut dire que certaines zones un peu lointaines, mal accessibles et dans lesquelles il n'y a pas de demande, est-ce qu'on le rend à la nature ? Est-ce qu'il y a une renaturation potentielle ? Et puis à part ça, dans les situations, dans les zones urbaines, il faut travailler là-dessus, mais il y a des conditions par rapport à ça. Les conditions, c'est avoir une bonne mobilité, c'est d'être pas dans les nuisances autoroutières ou je ne sais quoi, d'avoir des voisins, c'est-à-dire ne pas faire une plaque qui était dévolu à un hyper et ce qu'il y avait autour, à une autre plaque avec des logements, avec des commerces à rez-de-chaussée, etc. Il faut refaire du lien à travers les quartiers qui sont juste à côté, savoir comment ça se passe avec les équipements, avec les lycées, avec les écoles, etc. C'est-à-dire comment une ville peut s'inventer à partir de ça, quoi. Donc là, on peut aller dans une densité assez forte, parce que souvent, ces zones ont été rattrapées par les transports lourds, que ce soit la ligne 15 à Paris, que ce soit les tramways à Montpellier et plein d'autres choses, ou à Nantes aussi, à Saint-Herblain. Donc chaque site est spécifique, mais on est dans une logique très floue, autant du point de vue logement, comme je vous l'ai expliqué, que dans la partie commerciale. Donc il faut inventer des manières de construire, des structures d'accueil qui permettent toutes les évolutions.
Il faut réinventer, forcément ?
Il faut pas être trop sûr de soi sur la programmation. Il faut faire des constructions qui savent s'adapter à des mutations.
Merci beaucoup François Leclerc pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste.
Les entretiens cadres de ville sur Radio Immo et Radio Territoria.